It's me, Mario.
Luigi. Téléphone. Maison.
Les geeks existent depuis des années et sont devenus assez récemment un phénomène de mode.
Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un.
Oh oui, et un beau.
Le côté obscur, je perçois en toi.
Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit.
Loading, avec Sonia et Elodie, sur Radio Campus 3.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi 20h-21h, c'est le samedi 13h-14h et c'est sur campus3.fr. Bonjour Elodie.
Bonjour Sonia.
Comment va ?
Ben ça va bien.
Eh bien qu'avons-nous au sommaire de cette émission ?
Eh bien on va commencer avec l'actualité jeux vidéo. On enchaînera ensuite sur un jeu de cartes. Biscuit game à la maison en fait.
Ah.
Ensuite on parlera de forum RP, puis d'une un mélange entre une bande dessinée et un livre illustré. Et ensuite on parlera de l'actualité cinéma avec notre petite rubrique nostalgie animé nostalgie
où je reviendrai sur un dessin animé des années 80.
Et on finira avec une série télé.
Très bien. Eh bien on commence tout de suite par la première partie. Et dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 16 janvier de Inner Space sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Polynight Games et édité par Aspyr. C'est un jeu d'exploration aérien qui prend place dans l'inverse, un monde de planètes à l'envers dépourvu d'horizon. Élancez-vous dans les cieux anciens et les océans abandonnés pour découvrir l'histoire perdue de ce royaume sur le point de disparaître, où des civilisations entières se sont effondrées, mais où les dieux sont toujours présents. Inner Space, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. La sortie également le 16 janvier d'Anamorphine sur PC, c'est développé et édité par Artifact 5. C'est un jeu d'aventure narratif. Vous entreprendrez un voyage dans l'esprit de Tyler, un photographe souffrant de syndrome post-traumatique, dont la faculté de déni est si forte qu'il ne pourra faire face à son passé que lorsque son subconscient le poussera à le faire, au risque d'être consumé par celui-ci. Vous explorerez ensemble les souvenirs de sa relation avec sa femme Elena, tout en essayant de découvrir la raison de ce voyage introspectif. Anamorphine, c'est disponible sur PC. Et puis la sortie le 17 janvier de Full Metal Furies, disponible sur PC et Xbox One. C'est développé et édité par Cellar Door Games. C'est un jeu d'action mettant l'accent sur le jeu en équipe grâce à un système de combat dans lequel chacun joue un rôle primordial. Combattez en harmonie pour vaincre des ennemis spéciaux, enchaîner des combos et infliger des tonnes de dégâts et sauver un monde au bord de l'extinction ravagé par la guerre. Jouez en local ou en ligne, en solo ou jusqu'à 4 joueurs. Full Metal Furies, disponible donc sur PC et Xbox One. Voilà pour l'actu jeu vidéo. Et donc, on va passer à la musique. Et ensuite, tu nous parleras de ce jeu qui n'est pas un jeu de cartes du coup.
Si, ça se joue avec des cartes, j'en ai déjà parlé en fait. Mais on va parler il y a une deuxième boîte qui est sortie, il y en a même une troisième. Mais pendant, j'ai testé la deuxième.
D'accord.
Voilà, histoire de se faire des escape games à la maison.
Très bien. On écoute Moby avec Find My Baby et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi en direct 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc Elodie, tu vas nous parler d'escape game.
Oui, alors à peu près, plus ou moins. Disons que si vous aimez les escape games, donc rappelez-vous, vous êtes enfermé dans une pièce et vous avez une heure pour en sortir en résolvant diverses énigmes, en trouvant des clés, des codes. Donc vous aimez beaucoup ça et vous avez envie aussi de le faire chez vous. Et donc pour ça, vous avez Unlock. Donc j'avais parlé déjà de la première boîte, j'avais parlé également, ils ont sorti... certaines énigmes qu'on peut télécharger en ligne et tester chez soi. Et donc là, il y a une deuxième boîte qui est sortie il y a déjà quelques temps, que j'ai donc testé. Alors comment ça fonctionne? Vous allez pour chacun des scénarios avoir un paquet de cartes qu'il faut ranger dans un certain ordre. Et puis donc vous avez sur la première carte, on vous explique le contexte, le scénario, ce qui se passe. Vous retournez et là ça commence. Et vous allez avoir donc une salle avec différents numéros, donc à vous de chercher dans le paquet de cartes les différents numéros à sortir, avec parfois des objets qui vont vous aider dans la suite des énigmes, des codes à trouver, des cartes à combiner pour pouvoir trouver d'autres cartes qui vont vous aider, ainsi de suite. Et parfois, il y a des numéros qui sont bien visibles, mais vous avez aussi des cartes, je dirais, cachées, c'est-à-dire qu'il y a des numéros que l'on ne voit pas tout de suite au premier coup d'œil. Il faut bien regarder la pièce, comme on le ferait dans une vraie escape room, on farfouillerait. Et puis, il faut également vous équiper d'un téléphone portable ou d'une tablette avec une application qui est gratuite, dans laquelle il faudra taper certains codes, parfois écouter certains sons, parfois il y a d'autres énigmes en plus sur la tablette. Et donc, dans cette deuxième boîte, on a donc trois nouveaux scénarios. Vous avez la maison sur la colline. Que se passe-t-il dans ce manoir délabré? Explorez les pièces sinistres et déjouez la malédiction qui hante les lieux désolés. Donc là, une version un peu qui fait un peu peur. Bon, celui-ci, comme scénario, n'était pas très compliqué. Ça va. Les deux autres se corsent plus. On a eu beaucoup de mal, mon équipe et moi-même, sur les pièges du Nautilus. Vous allez être pourchassé par un monstre marin au cours d'une plongée et vous allez découvrir un abri en ouvrant une vieille écoutille. Et il va falloir trouver un moyen de remonter à la surface. Donc vous allez être dans le Nautilus et il va falloir trouver différentes choses pour pouvoir vous en sortir. Sachant qu'il y a toujours un compte à rebours et dans le Nautilus, en plus, il vous faut trouver de l'oxygène. Sinon, vous allez vous noyer. Il était assez corsé, celui-ci. Et puis, le troisième, qui était très sympa, qui s'appelle le trésor du Tonipal. Le capitaine Smith a caché son trésor sur l'île de Tonipal, déterré le magot avant qu'un autre chasseur de trésors ne mette la main dessus. Celui-ci était vraiment très sympathique, un peu ardu aussi, mais avec plein de petites nouveautés avec les cartes. Voilà, il y a plein de choses différentes qui se sont passées. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de jouer à ces petites énigmes-là. Donc si vous aimez ça, il y a le Unlock 1 qui est déjà sorti. Là, le 2 que j'ai testé pour vous, et je vous parlerai prochainement de la troisième boîte qui est sortie avec trois nouveaux scénarios encore.
Et, je veux dire, il y a eu une évolution au niveau de la boîte 1 et de la boîte 2. Je veux dire, ça, voilà.
Alors, il y a de l'évolution dans les énigmes. Là, vraiment, les pièges du Nautilus et le trésor du Tonipal sont un peu plus corsés, je trouve en tout cas, que les précédents. Il y en a dans la première boîte, il y a un scénario qui était rigolo parce qu'on était à un moment séparés. Là, il fallait vraiment le faire à plusieurs parce qu'on était deux équipes avec pas les mêmes cartes, parce qu'on n'était pas dans le même lieu et le but c'était de se retrouver à un moment. Donc celui-là était très original aussi et très sympathique. Et puis ils arrivent à se renouveler sur les énigmes et sur l'utilité des cartes aussi. Il y a des choses, des idées sympathiques. Et puis là, ils utilisent aussi encore un peu plus la tablette. C'est-à-dire qu'avant, on rentrait juste des codes. Et là, il y a, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a des choses qui se passent sur la tablette. Il y a des choses à faut appuyer à certains endroits. Il y a des petites énigmes supplémentaires. Donc là, ils arrivent bien à se renouveler. Et on prend toujours autant de plaisir à y jouer. Voilà. Alors, ça se joue de 2 à 6 joueurs. Faut bien s'entendre, hein, sinon on finit par s'engueuler. C'est à partir de 10 ans, et effectivement. Par exemple, la maison sur la colline, j'ai joué avec une elle avait 12 ans. Elle est un peu plus grande quand même. Donc, juste des enfants, quand même, c'est compliqué. Hein. Faut quand même qu'il y ait des adultes, parce qu'il y a des énigmes qui sont un peu difficiles. Et puis, normalement, c'est environ une heure, parfois plus. Hein. Le Nautilus, je ne sais pas combien de temps on a fait, mais on s'est arraché les cheveux de la tête, donc on a mis un peu plus de temps. Après, c'est vous qui décidez aussi. Sur la tablette, il y a possibilité de retirer le temps, si vous ne voulez pas. Sachant qu'il y a certaines cartes qui donnent des pénalités de temps. C'est-à-dire que si vous faites des choses... Parce qu'on a tendance à des fois vouloir combiner des cartes qui vont absolument pas ensemble, ou à vouloir faire des trucs complètement stupides, et ça vous rajoute du temps de pénalité, parce que c'était stupide. Voilà.
Donc le seul point négatif en fait, c'est que bah une fois qu'on a joué,
on peut pas y rejouer. Effectivement, ouais. Faut. Alors le Nautilus, moi je l'ai fait deux fois parce que on était bloqué sur une énigme dont on ne trouvait pas la solution. Et du coup on l'a refait une seconde fois où là on a trouvé la solution. Après faut le soit vous l'offrez à des copains, ça peut être un cadeau, soit vous la prêtez après à vos amis, voilà. Oui. Mais c'est un peu comme je reparlerai, parce que normalement je dois refaire un nouveau scénario de Time Stories. Et alors c'est pas tout à fait, enfin c'est les mêmes, hein, c'est, j'ai oublié le nom de la boîte qui fait ça. C'est Space Cowboy, c'est la même boîte. Et en fait, effectivement, là c'est pareil, le scénario, on y joue une fois ou après il faut y jouer dans 10 ans, quoi. Pour plus se souvenir de ce que c'était, mais ouais, après il faut le prêter à des copains. Voilà.
Voilà. Très bien, donc ça s'appelle ?
Ça s'appelle Unlock. Donc là, c'est la boîte numéro 2, Mystery Adventure.
Très bien, eh bien, on écoute un peu de musique avec Dick Angarn. Le titre, c'est St. James Infirmary. Et on se retrouve après pour parler du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. A tout de suite, vous êtes toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc, on passe tout de suite au forum Roleplay, à l'honneur cette semaine. Et ce forum que je vous propose s'appelle La Mascarade Belle Époque. Et oui, vous avez peut-être deviné si vous avez déjà joué au jeu de rôle papier Vampire La Mascarade. Eh bien, ce forum est nettement inspiré de ce jeu de rôle, et notamment Vampire La Mascarade 3e édition. Donc ça se passe en 1899 à Paris. Et vous allez jouer un vampire qui est dans une des deux sectes aux objectifs plutôt variés. Et vous allez évoluer à travers ce Paris de 1899. Donc c'est un forum qui n'est pas très très vieux, il date du 15 décembre 2017. Au niveau des graphismes, eh bien, c'est plutôt clair sur fond sombre. Et vous allez avoir le guide du nouveau joueur qui est très apparent sur ce forum et qui va vraiment vous expliquer un peu tout, puisque sur ce forum il y a énormément de choses à lire. Oui, il faut aimer lire et écrire pour participer à ce genre de forum roleplay. Et donc vous allez retrouver le contexte en disant bien qu'est-ce qu'un vampire ? Voilà, ce qui est faux, ce qui est vrai dans les vampires. Également l'organisation du pouvoir vampirique avec des illustrations très jolies d'ailleurs, toutes ces illustrations qu'il y a sur ce forum. La vie quotidienne en 1899 qui est également super bien décrit avec des vidéos et des illustrations. Et en fait, rien que pour ça, ça donne envie de lire tout ce qu'il y a au niveau des annexes. C'est vraiment... bien, je trouve que c'est, voilà, c'est bien décrit, c'est bien amené. Il y a même là dans la description de la vie quotidienne en 1899 le prix des fruits, des pâtes au kilo, hein. Vraiment le prix des pâtes au kilo.
Parce
le
que
charbon
d'un Dracula, il peut aller chercher son paquet de pâtes.
Non, mais c'est vraiment pour voir comment oui, se oui, situe la vie à Paris en 1899. Et ils ont vraiment mis les tarifs et tout de tout ça, café, pâtes, fruits, charbon, etc. Tout est bien décrit, c'est super sympa en fait à lire. Vous avez également au niveau des annexes les traditions vampiriques, l'histoire de Paris. Alors l'histoire de Paris est très grande, donc il y a des petits liens avec des vidéos et bien sûr des liens sur le wiki. Voilà. Vous avez également les générations et la mythologie vampirique, les autres créatures, parce qu'on croise également d'autres créatures comme des mages, des fantômes, des fées, des ghouls, etc. Vous avez également un lexique et argot vampirique avec tous les termes voilà, que vous allez pouvoir retrouver dans la mascarade. Et puis également des aides de jeu. Oui, comment créer son personnage ? Alors, il faut savoir que vous pouvez soit créer de toute pièce votre personnage, mais alors là, il faut faire vraiment une fiche puisqu'on est également quasiment comme dans un jeu de rôle papier, sauf que ça se fait sur forum.
Ah, ici, ils se sont bien appuyés sur le...
Tout à fait, ouais. Voilà. Donc vous pouvez créer votre personnage mais également prendre une fiche qui est déjà proposée par le maître du jeu. Comment jouer et gagner de l'expérience, le lancer de dés également, les disciplines, les points de sang et de chasse, la santé, les dégâts, etc. etc. Il y a énormément de choses là-dessus. Donc même si vous avez pourquoi pas envie de jouer à un jeu de rôle papier plutôt qu'aller sur forum, vous pouvez vous documenter sur ce forum.
Ce que j'allais dire, ça peut presque être une... comment est-ce qu'on appelle ça, enfin, peut-être vous donner envie de jouer au jeu de rôle après.
Voilà. Donc il y a énormément de choses. Et bien sûr, il y a des missions et des events qui sont mis en place par le maître du jeu. Voilà. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas lire les RP, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé voir un peu comment c'était, mais on ne peut pas les lire à moins d'être inscrit. En tout cas, voilà, c'est un forum qui ne date pas depuis très longtemps, il y a très peu de membres pour le moment, 5 membres enregistrés, donc c'est plutôt facile de se trouver voilà, un petit coin avec ces personnes-là. Il n'y a pas trop de lecture, voilà, je pense, à rattraper. Pas de ligne minimum, par contre c'est interdit au moins de 18 ans, bah oui, puisqu'il peut y avoir des scènes assez violentes, voire assez sexuelles. Hein, c'est des vampires après.
Vampires, hein.
Voilà, en tout cas, vraiment un super beau forum, très simple comme ça quand on y arrive, mais avec énormément de choses, de descriptifs, voilà, beaucoup de choses que j'ai adorées. Et pourquoi pas, vous pouvez juste les lire si ça vous fait plaisir, parce qu'il y a vraiment des trucs sympas à lire. Pour aller sur ce forum roleplay, vous tapez mascarade belle époque, tout ça attaché, .forumactif.com ou bien vous allez sur notre blog loadingradio.wordpress.com. Voilà en ce qui concerne ce petit forum roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute de la musique avec Electric Guest, This Head I Hold, et on se retrouve après pour parler d'un bouquin...
D'un livre BD illustré.
D'accord. Ok, on écoute donc Electric Guest et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc, Elodie, tu vas nous parler donc d'une BD illustrée.
D'un livre BD illustré. s'appelle La Grande Forêt, le pays des Chintiens. De Anne Brouillard. Et la Chintia, dont Anne Brouillard a imaginé la carte, est divisée en 11 pays. L'histoire prend vie au travers des personnages, des lieux et de leur influence. Tout est possible et a l'air réel. Et ce premier tome parle donc des habitants du pays du lac Tranquille et de cette fameuse grande forêt où l'on va retrouver Kiliok, le chien noir qui est inquiet. Il attend le retour de Vari Chesu, le magicien rouge dont il n'a plus de nouvelles depuis le printemps. D'après les oiseaux, une roulotte aurait été aperçue au fin fond de la grande forêt et Kiliok convainc Véronica de l'accompagner pour savoir ce qu'il en est. Donc effectivement, on va suivre les aventures de Kiliok et Véronica à la recherche de ce fameux magicien qui a disparu. Et ils vont rencontrer également des bébés mousses, des choses très étranges. Et j'ai beaucoup aimé, alors c'est... Effectivement, plus jeunesse, mais c'était, j'étais vraiment agréablement surprise. Ça se lit bien, on a envie d'en savoir plus et les illustrations sont hyper jolies et il y a des tas de cartes, j'adore les cartes.
D'accord.
Donc ouais. Voilà, les cartes avec des châteaux, des lignes de chemin de fer, des forêts... Et donc, alors je montre à Sonia en même temps, c'est pas du tout radiophonique. Donc, il y a un côté au départ qui est très livre illustré.
Martine, très Martine, non ? C'est le même truc que Martine avec les textes en haut et le dessin.
Oui, bah, c'est un livre illustré.
Hein, oui, voilà.
Il
n'y
a pas que Martine qui
non,
est
non.
Comme ça. C'est pas
mais
tout à fait le même format.
Ça,
c'est pas le même format que Martine. Mais on a aussi, voilà.
Ah non, là, c'est plus pareil.
Partie bande dessinée.
D'accord.
Et elle a vraiment un dessin parfait pour la jeunesse. Et très doux et puis c'est comment dire, j'ai vraiment retrouvé mon âme d'enfant en le lisant parce que c'est des histoires avec des choses incroyables, avec des choses qui complètement inventées quoi, complètement farfelues, mais ça marche parce que ça tient debout par rapport à l'univers dans lequel on est et par rapport à comment c'est raconté. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait un peu une bouffée d'air frais dans mes lectures un peu plus sombres et dramatiques du moment. Et donc même si vous n'avez pas entre 7 et 10 ans, je vous le conseille quand même, parce que c'est vraiment un très très joli livre. Et du coup, bah, c'est bien aussi pour offrir à des enfants voilà, qui sont en plein... dans leur début de lecteur, c'est vraiment très très sympa. Et a priori, là c'est son premier tome, mais le pays est grand et vaste.
Oui.
Comme je l'ai dit, la carte imaginée est en 11 pays. Donc on pourrait imaginer autant de tomes que de pays ou d'autres aventures qui pourraient leur arriver. Mais voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment avec Kiliok et Véronica. C'était très très chouette. Donc je vous le conseille vivement. Ça s'appelle La Grande Forêt, le pays des Chintiens. Et vous allez retomber en enfance. Voilà, ça donne vraiment envie de d'écrire des histoires farfelues.
D'accord. Très bien, merci Elodie. On passe à la musique avec Émilie Simon, Menteur. Et ensuite, on parlera ciné avec ce qui sort à 3 cette semaine, avec l'actu tournage, avec notre petite rubrique animé nostalgie, et puis on finira par une série.
Oui.
Très bien. On écoute donc Émilie Simon avec Menteur. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et on passe maintenant au cinéma, avec les sorties ciné à 3 cette semaine. Tout d'abord le film Three Billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell et Peter Dinklage. Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur 3 grands panneaux à l'entrée de leur ville. Three Billboards, les panneaux de la vengeance, c'est à voir cette semaine au CGR à 3. Autre film qui sort cette semaine, le film brillantissime réalisé par Michel Larocque, avec Michel Larocque, Kad Merad, Françoise Fabian et Gérard Darmon. Angela pense avoir une vie idéale, elle vit à Nice dans un bel appartement avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Angela n'a plus d'autre choix que celui de se reconstruire et ce n'est pas simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales. Brillantissime, c'est adapté de la pièce de Géraldine Aron, My Brilliant Divorce, et c'est à voir actuellement au CGR à 3. Autre film qui sort cette semaine, le film Ami Ami, réalisé par Victor Saint-Macary, avec William Lebgill et Margot Bansillon. Vincent, ravagé par sa dernière rupture, décide de vivre en coloc avec sa meilleure amie, Néphélie, jeune avocate déjantée. À peine installée, les deux potes se jurent de ne plus jamais tomber amoureux, de vivre d'amitié et d'histoire sans lendemain. Mais après quelques semaines de cohabitation complice et festive, Vincent rencontre Julie. Ami Ami, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Et pour la petite info, Ami Ami a été tourné en petite partie à 3. Voilà, c'était l'année dernière, pendant les foires de mars.
Ah oui, les fameuses, toujours les foires de mars.
Voilà, et je fais une petite figuration à l'intérieur, mais vous ne me verrez pas normalement. Je suis de dos.
Bah, on peut te voir du coup.
Non, on ne me verra pas, je suis de dos avec une capuche.
Oui, mais on peut te deviner.
Ah oui, vraiment deviner de loin, hein, vraiment. Mais bon, voilà.
Ton manteau rouge ou
Pas du tout. Voilà, Ami Ami, c'est à voir donc au CGR à 3 cette semaine. Et puis enfin, La Surface de Réparation, réalisée par Christophe Régine avec Franck Gastambide, Alice Izaz et Hippolyte Girardot. Franck vit depuis 10 ans en marge d'un club de foot de province. Sans statut ni salaire, il connaît bien les joueurs et les couvre autant qu'il les surveille. Un soir, il rencontre Salomé, l'ex-maîtresse d'un joueur qui a jeté son dévolu sur Djibril, une vieille gloire du foot venue finir sa carrière au club. La Surface de Réparation, c'est à voir actuellement également au CGR à 3. Et puis dans le cadre de Connaissance du Monde, vous pouvez voir un documentaire sur les îles de Bretagne, d'Ouessant à Belle-Île. C'est réalisé par Serge Oliero et ça sera le vendredi 19 janvier à 14h30 et 20h. Et puis également des avant-premières. Vendredi, vous avez l'avant-première de Pentagon Papers avec Meryl Streep et Tom Hanks, réalisé par Steven Spielberg. Pourquoi tu rigoles?
Rien.
C'est mon anglais, voilà. Je sais pas comment on dit Pentagon.
Non, Pentagon Papers.
Pentagon. Pentagon pas peur.
Hein, ouais, voilà. C'est
ça. Voilà, donc l'avant-première, c'est vendredi 19 janvier à 19h45. Également une autre avant-première, The Passenger, réalisée par Rome Colessera avec Liam Neeson et Vera Farmiga. Ce sera lundi 22 janvier à 20h. Et puis The Greatest Showman, c'est réalisé par Michael Gracey avec Hugh Jackman, Zac Efron et Michelle Williams. Ce sera mardi 23 janvier à 19h45. Voilà pour ces avant-premières et ses sorties ciné de la semaine. Et puis on passe du coup à l'actu tournage, et ça y est, c'est officiel, Leonardo DiCaprio retrouve enfin Quentin Tarantino pour son prochain film. 6 ans après Django Unchained, eh bien Leonardo retrouvera Quentin pour son nouveau film centré sur le gourou Charles Manson. Après plusieurs mois de négociations, Leonardo DiCaprio est le premier acteur à rejoindre officiellement le nouveau film de Quentin Tarantino. Et pour son 9e long métrage, le réalisateur américain a décidé de s'attaquer à Charles Manson et sa secte, je crois que je vous en ai déjà parlé, responsable donc de la mort de l'actrice Sharon Tate et de 4 de ses amis en août 1969. Le meurtre devrait servir de toile de fond à l'histoire sans pour autant être un biopic. Pour l'instant, nous savons seulement qu'il campera un acteur vieillissant. Il pourrait rapidement être rejoint par Margot Robbie, courtisée pour le rôle de Sharon Tate, ainsi que par Tom Cruise et Brad Pitt, qui se trouveraient en ce moment un petit peu en négociation. On ne sait pas encore s'ils vont tourner dedans. En tout cas, le film est attendu sur nos écrans en août 2019. Voilà, ça sera une belle brochette d'acteurs, hein, s'ils arrivent à voir tout ça. Et puis Halloween, le tournage du nouveau film a commencé alors que sa sortie a été annoncée pour le 19 octobre cette année. Le tournage du nouveau volet de la célèbre saga de Slasher vient de débuter aux États-Unis. Pour l'occasion, la société de production de Jason Blum, la Blumhouse Production, a dévoilé sur Twitter une première photo de tournage sur laquelle on peut voir une lanterne d'Halloween sur le dossier d'une chaise d'artiste. Voilà, c'est tout ce qu'on voit. Halloween version 2018 est une suite directe du film originel de John Carpenter et omettra ainsi les nombreuses suites, pas toujours très réussies. Jamie Lee Curtis reprendra son rôle mythique de Laurie Strode et sera une nouvelle fois confrontée au tueur Michael Myers 40 ans plus tard. Il y a peu, on apprenait également que Nick Castle, l'interprète de Myers dans le film de 78, renfilera une nouvelle fois le masque légendaire. À la tête du projet, le cinéaste David Gordon Green et l'acteur Danny McBride, qui forment un duo inattendu qui attise la curiosité des fans. Cerise sur le gâteau, John Carpenter, en plus d'être producteur aux côtés de Jason Blum, compose la musique du film. C'est donc un véritable retour aux sources qui s'opère et qui s'annonce comme la renaissance méritée de l'une des plus grandes sagas horrifiques de l'histoire du cinéma. Voilà. À suivre donc pour Halloween. Et puis, nous arrivons à la petite rubrique animé nostalgie où, comme d'habitude, je vais vous faire un petit blind test et vous allez essayer de deviner quel est cet animé des années 80. Et souviens-toi Elodie, ça faisait comme ça. T'attends le...
Non, je...
T'attends le refrain
je
pour savoir
que
le
je connais
nom.
Pas en fait.
Mais si, attends le refrain. Voilà.
Ah, c'est Amy Magique.
Oui.
Mais je crois que je connais pas.
D'accord.
Je suis pas sûre d'avoir vu ces dessins. En même temps, ça ressemble beaucoup à d'autres. Hein.
Ah oui, oui. Mais là, c'est Amy Magique.
Mais si. Non, parce que je regarde la photo sur le site et je la revois avec effectivement ses cheveux bleus et son espèce de tutu là. Ouais, okay.
Voilà donc Amy Magique, souvenez-vous pour les plus vieux qui nous écoutent. Amy Magique, c'est une série d'animation japonaise du genre Magical Girl. Oui, il y en a eu beaucoup des Magical Girls.
Ouais, ça ressemble un peu à Pompelilu.
Ben oui, puisque c'est un peu les mêmes producteurs.
Oui, mais en fait, même elle ressemble à Pompelilu.
Un petit peu, oui. Bah, c'est toujours dans le même esprit, voilà. Donc, un une série d'animation japonaise de 38 épisodes de 22 minutes. Et en France, avait été diffusée la première fois en 87 sur la 5 dans Youpi, l'école est finie. Là où on avait les plus merveilleux dessins animés, je dirais. Hein. Voilà, donc Amy Magique, eh bien, l'histoire, c'est l'histoire de Mai, qui est une jeune fille passionnée de magie et qui voudrait faire partie de la troupe de ses grands-parents, les Magicarottes. Alors, ça, c'est la version française. Je n'ai jamais compris pourquoi ils ont appelé ça les Magicarottes. Puisque normalement, c'est les Magical Art. Tu vois, Magical Art. Magical, voilà. Donc, ils ont dit Magicarotte en français. Bon, un jour, elle aperçoit un lutin sous forme d'esprit qui s'incarne dans une de ses peluches qui s'appelle Moko. Il lui remet un bracelet permettant de la transformer en une magicienne d'exception. Elle fait donc ses preuves lors d'un de leurs spectacles sous le nom d'Amy. Et elle devient en très peu de temps une star grâce au célèbre producteur Bartholomé. Mais à l'école de la vie comme à celle de la magie, les difficultés sont nombreuses. Et bien sûr, la petite formule magique pour se transformer, c'est tourne, tourne la destinée et tes rêves seront exaucés. Voilà, il y a toujours une petite formule magique. Et là, c'est celle-là pour Amy Magique. Donc, eh bien, que dire à propos d'Amy Magique, sinon que je suis toujours, pas choquée, mais presque du début quand ces magical girls apprennent à avoir leur pouvoir. Parce que c'est toujours un petit être qui leur parle, qui vient d'ailleurs, et c'est tout à fait normal à chaque fois que quelqu'un, qu'un lutin lui parle, c'est normal, quoi. C'est presque normal. Elle apprend très vite à se servir de son pouvoir. Bon, il y a des petites choses comme ça, un peu pas très cohérentes. Également, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est une magicienne, donc elle va faire des tours en public. Et puis on
tu sais que c'est pour les enfants.
Oui.
Tu sais qu'étant enfant, tu devais pas te poser la question.
Non, non. Mais quand tu regardes ça avec un œil d'adulte, tu fais oui, il y avait quand même des trucs pas du tout logiques. Et notamment, puisque c'était une magicienne et qu'elle présente ses spectacles, on va lui demander, puisqu'elle va passer à la télé, enfin c'est grâce à elle que les Magicarottes vont passer à la télé, on va lui demander de chanter en même temps de faire ses tours. Mais pourquoi ? Et quand elle chante, quelle chanson elle chante ? Eh bien, elle chante la chanson que vous venez d'écouter, du générique, ce qui n'est pas du tout logique pour le coup.
Ah oui, non, pas du tout.
Voilà, à chaque fois qu'elle va chanter, ça va être ce générique. Et à un moment donné, plus vers la fin d'ailleurs du dessin animé, il y a quelqu'un qui va lui composer une deuxième chanson. Donc il lui compose la deuxième chanson, elle va être dans un habit différent et elle va chanter la même chanson, la même chanson du générique. À croire que en France, du coup, pour pas avoir la version japonaise, ils ont pas voulu chanter, faire chanter Amy. Bon, voilà, mis à part ça, ça se regarde toujours bien. Mis à part qu'il y a des choses un peu bizarres, il y a le garçon qui s'appelle Ronnie, sa voix me disait vraiment quelque chose, et oui, c'est la voix de Marty McFly dans Retour vers le futur.
Lucamette.
Oui. Voilà, ça se passe plutôt pas trop mal, ce dessin animé, ça se regarde plutôt pas trop mal encore. Et comment ça se finit ? Eh bien, je vais vous le spoil. Une petite chose aussi qui est drôle.
Tu veux nous le divulgâcher ?
Oui. Une petite chose qui est drôle, c'est que Amy, personne ne sait d'où elle vient, où elle habite et comment rentrer en contact avec elle. Il demande toujours à Mai, tu peux aller chercher Amy ? Tu peux aller prévenir Amy ? Voilà, donc ça c'est un petit peu bizarre aussi. Pourquoi ils n'ont jamais voulu ? Bon, bref. Et puis donc la fin, eh bien, comment se finissent ces dessins animés ? Eh bien oui, un peu comme tous les Magical Girls à la fin, elles perdent leur pouvoir. Mais en fait, c'est plutôt Mai qui réalise qu'elle n'a plus besoin de se transformer en Amy pour réussir à être magicienne. Il lui suffit d'être elle-même et de réussir par ses propres moyens. Et elle va prendre la décision de rendre ses pouvoirs magiques.
Oh, c'est beau.
Voilà, on va pas lui prendre, elle va les rendre. Et voilà, donc ça se finit comme ça. Moko, le petit lutin, rentre dans son pays, on ne sait même pas d'où il vient. Il rentre dans son pays et il lui promet que de là où il est, il continuera à l'observer et à voir quelle grande magicienne elle va devenir. Voilà pour Amy Magique. Voilà. Si vous voulez vous retaper les 38 épisodes, sachez qu'ils sont tous disponibles sur YouTube.
Okay.
Voilà. On écoute de la musique avec les Vampas, Ne dis pas aux copains. Et ensuite, on parlera d'une série.
Ouais, une espèce de série documentaire, mais faux documentaire.
Ok. Et on voit ça d'ici quelques minutes. À tout de suite. Suite et fin de l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h, et sur campus3.fr. Et donc, Elodie, tu nous parles d'une série.
Oui, qui s'appelle Life's Too Short, et c'est la vraie fausse vie de Warwick Davis. Est-ce que tu sais qui est Warwick Davis ?
Willow.
C'est ça, c'est l'acteur nain qui joue Willow, qui joue également dans Harry Potter, qui joue également, on le reconnaît moins, mais dans Star Wars, puisqu'il joue le petit Ewok.
Ah,
c'est
d'accord.
Lui sous tous les poils.
Okay. Ah oui, oui.
Il était tout jeune à l'époque,
oui.
Dans Le Retour du Jedi. J'ai oublié le nom de l'Ewok en question. Tu te souviens comment il s'appelle ?
Non.
Je me souviens plus. Bref, donc c'est une série sur lui. C'est sa vraie fausse vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auto-dérision. Et c'est vraiment comme une sorte de documentaire, une sorte de docu-fiction, quoi. Donc il est suivi par des caméras. Donc c'est Ricky Gervais qui est aux commandes de ce programme-là. Et on va le retrouver dedans, qui va jouer son propre rôle aux côtés de Stephen Merchant. Et ils vont recevoir régulièrement la visite de Warwick pour du boulot. Mais à chaque fois que le nain est là, une grande star se pointe. Donc on trouve certaines guests comme Johnny Depp qui va s'énerver parce qu'on se moque de Pirates des Caraïbes. Liam Neeson avec la liste de Schindler ou encore Steve Carell. Ou même à un moment, il va se retrouver à jouer avec Helena Bonham Carter. Où finalement elle n'arrive pas à jouer devant lui, donc ils le mettent dans une poubelle, enfin un truc horrible. Alors même eux se prennent beaucoup en auto-dérision, ils se moquent beaucoup d'eux-mêmes aussi. Alors j'avoue que les guests, ça reste assez drôle, et que par rapport à Warwick Davis, moi ça m'a mis un peu mal à l'aise. C'est-à-dire qu'au départ ça m'a fait marrer, puis au bout d'un moment ça m'a vraiment, enfin voilà, il s'en prend vraiment plein la figure. Sa femme le quitte, elle est avec un autre, puis comme il y a plein de choses au niveau de sa taille évidemment, de nain, ou plein de choses, il n'arrive pas à... En fait, il est, comment il s'appelle, Ricky Gervais, il veut plus qu'il vienne, et du coup il a remonté la sonnette pour pas qu'il puisse l'atteindre et sonner à la porte. Donc il fait appel à des gens dans la rue pour sonner à la porte. Et il a une entreprise de nains à louer pour, alors plus précisément pour des rôles au cinéma ou dans des séries, mais aussi pourquoi pas si vous voulez un nain pour votre anniversaire, voilà, vous pouvez avoir un nain. Sauf que il a cette entreprise là, mais il rafle tous les rôles, c'est-à-dire qu'il les donne pas à ses collègues nains. Il garde les rôles les plus importants pour lui. Donc les autres ont un peu la haine. Voilà. Et du coup, il est aussi dans une association pour les droits des nains, et il essaye de prendre la tête, sauf que il est totalement ridicule et enfin voilà.
Alors c'est l'autodérision.
C'est l'autodérision. Mort, hein. C'est politiquement incorrect. C'est vraiment à prendre au second degré. Mais là-dessus, voilà, les avis sont très partagés. C'est-à-dire que soit on adhère, soit on n'adhère pas. Parce que j'ai lu un peu d'autres avis, je me suis dit, il n'y a que moi que ça a dérangé. Et donc, non, il y a d'autres personnes comme moi qui ont été un peu mal à l'aise et qu'au bout d'un moment, ça n'a plus fait rire du tout. Et parce qu'il lui arrive vraiment tellement de trucs. Enfin, moi, j'étais pas bien pour lui, en fait. Et d'autres qui trouvent ça vraiment très drôle. C'est un humour vraiment très particulier et qui, du coup, ne va pas forcément plaire à tout le monde. Il n'y a qu'une seule saison de cette série qui, voilà, en plus de son nom, est effectivement très courte. Il y a 8 épisodes de 26 minutes. Après, ça m'a fait plaisir de le revoir, lui, jouer autre chose. Mais voilà, le pauvre, on a vraiment l'impression que la condition de nain est très difficile. Et je ne sais pas si lui-même a eu des difficultés en tant qu'acteur pour trouver des rôles ou dans sa vie personnelle. Mais si c'est le cas, si c'est comme dans sa série, voilà, je ne suis pas bien pour lui.
Alors ça s'appelle ?
Ça s'appelle Life's Too Short. On la trouve sur Netflix,
okay.
Voilà, si vous voulez la regarder et vous faire votre avis. Voilà, les avis sont partagés dessus. Moi, ça m'a fait rire au début.
D'accord.
Voilà, après, j'étais pas bien.
Ok, très bien. Bah, merci, Elodie. Nous, on se retrouve bien la semaine prochaine, mais vous pouvez nous réécouter, soit en diffusion, bien sûr, le samedi, mais également en podcast.
Oui, qui sont à jour.
Ils sont à jour, voilà, vous pouvez nous réécouter, et même les émissions d'il y a 2 ans ou 3 ans.
Oui, ou même les émissions, moi j'aime bien les émissions où on va sur les salons, et justement oui. Il y a celle sur le Festival des Jeux à Troyes, qui date de fin décembre, et puis un peu de temps avant, on a été à Gaming Reims,
oui.
Voilà, où il y a des chouettes interviews, comme oui. Brigitte Lecordier par exemple.
Par exemple.
Donc on vous conseille vivement de réécouter celles-ci aussi, qui sont très très intéressantes.
Eh bien, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.
Bye bye.